Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. La jungle de Calais sera démantelée à partir de lundi, une opération que l'État revendique comme humanitaire. Entre 6 000 et 10 000 personnes sont à évacuer. Mathieu Darrier de France Bleu Nord va nous expliquer le dispositif au début de ce journal. Deux semaines après l'attaque au cocktail Molotov de Viry-Châtillon, le mouvement de contestation des policiers s'enquiste avec de nouveaux rassemblements spontanés prévus ce soir à Paris notamment. L'historien de la police Mathieu Frachon est l'invité du journal de 22h pour un décryptage. Nous reviendrons aussi sur la décision du Conseil constitutionnel de ce matin. Les sages ont censuré un article de la loi renseignement adoptée en juillet dernier. La disposition contestée permettait de surveiller, en dehors de tout cadre juridique, les communications sans fil par voie hertzienne. Enfin, au Venezuela, l'opposition compte riposter après le gel du référendum anti-Maduro. Des manifestations sont prévues dès demain. Notre correspondante Angèle Savino va nous expliquer pourquoi le scrutin a été reporté. La préfète du Pas-de-Calais a pris l'arrêté d'expulsion en fin d'après-midi. Plus rien ne s'oppose désormais au démantèlement de la jungle de Calais. Cette évacuation, qui correspond à celle d'un camp de migrants parisiens multiplié par 10, aura lieu lundi à partir de 8h. Plus de 2000 personnes sont mobilisées, des agents de l'État, des traducteurs, des pompiers et des secouristes. Il y aura aussi plus de 1200 policiers qui feront en sorte que de nouveaux squats ne se reforment pas. Mathieu Darrier de France Bleu Nord, vous nous expliquez comment va se dérouler cette évacuation.
Dans un vaste hangar réaménagé en une sorte de gare routière près de la jungle, quatre files d'attente sont prévues. Les migrants majeurs, les personnes vulnérables, les familles et puis les mineurs isolés qui vont rester à Calais, explique Fabienne Bussiaud, la préfète du Pas-de-Calais.
Les mineurs étrangers isolés passeront aussi par ce système de SAS. Eux ne quitteront pas Calais. Eux seront conduits, après des entretiens qu'ils auront avec un binôme entre le Home Office et le ministère de l'Intérieur français, seront conduits après au centre d'accueil provisoire où ils seront mis à l'abri un temps qui pourra varier d'une semaine à deux semaines.
Hébergement dans le village de conteneurs qu'il faudra vider en priorité de ses occupants qui pour beaucoup attendent de partir depuis longtemps.
Nous on sait qu'on a une place pour chaque personne, qu'il y aura des places le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour s'il le faut. Eux, les migrants, ne le savent pas toujours. Donc on craint qu'on ait beaucoup, beaucoup d'affluence avant même que le SAS ouvre le lundi matin. Avant 8h, on aura déjà, je pense, plusieurs centaines de personnes devant les files d'attente.
La difficulté de l'opération viendra à des migrants qui refuseront les deux propositions de destination qui leur seront faites. Pour eux, les centres de rétention sont mobilisés. Quant aux activistes No Border, qui seraient déjà 200 sur la jungle, s'ils s'opposent, un commissariat mobile est prévu.
Les précisions de Mathieu Darrier de France Bleu Nord. Plusieurs rassemblements spontanés de policiers sont de nouveau organisés ce soir à Paris notamment. La nuit dernière, les forces de l'ordre étaient environ 3000 à Melun, Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux. Le chef de l'État recevra leur syndicat à l'Élysée lundi. Les mesures promises par les ministres de l'Intérieur et de la Justice ne suffisent pas à calmer la fronde, conséquence de l'attaque au cocktail Molotov contre 4 policiers en Essonne. Cela fera 15 jours demain et un fonctionnaire est toujours hospitalisé, grièvement brûlé. Bonsoir Mathieu Frachon.
Bonsoir madame.
Vous êtes l'invité du journal de 22h, journaliste spécialisé police-justice, historien de la police et auteur de plusieurs livres à ce sujet. Première question à l'historien, ce n'est pas le premier mouvement de contestation des forces de l'ordre, mais vous dites que cette fois-ci, la situation est particulièrement explosive.
Alors oui, c'est pas le premier mouvement. Effectivement, la police qui dépose les képis, qui fait un mouvement de colère, c'est arrivé notamment, il y a eu une sorte de paroxysme en 1983, notamment les policiers, au bout d'un certain nombre de faits exaspérants pour eux, ont défilé et sont allés manifester, notamment devant la place Vendôme, le ministère de la Justice, qui était à l'époque occupé par Badinter. Mais là, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très différent. Il y a une multiple colère, il y a une colère contre une hiérarchie à qui il reproche d'être trop carriériste, d'un peu de les laisser tomber en race campagne, de pas être là. Il y a une colère donc contre une justice dont ils ne comprennent pas toujours les décisions, une colère contre une autorité de tutelle dont qu'ils estiment lâcher, puis une colère surtout qui, à mon humble avis, est la plus symptomatique et celle qui fait vraiment déborder des choses, est une colère contre le manque de moyens, non pas en personnel, mais surtout en matériel.
On va revenir sur tous ces éléments, mais une autre question, qui sont ces policiers qui manifestent spontanément depuis le début de la semaine ?
Alors, il va falloir prendre ça avec beaucoup de précautions et de pincettes, parce que c'est tout neuf, tout récent. Il va falloir faire un petit peu le tri entre les autoproclamés, comme on a vu, dirigeants du mouvement. On se rappelle qu'à une époque, il y a eu des autoproclamés dirigeants de mouvements étudiants qui ont terminé et ont sénateurs de certains partis. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que c'est un mouvement qui échappe à beaucoup de choses. C'est ce qui est compliqué, d'ailleurs.
Peut-on parler tout de même d'une nouvelle génération de policiers qui manifestent spontanément depuis le début de la semaine ?
Oui, tout à fait. Parce que aujourd'hui, d'abord, pour le grand public, la police, souvent, ce qu'on aime voir, et ce qui est montré dans les séries télévisées, dans les reportages, etc., c'est la police judiciaire. Or, la police judiciaire, en termes d'effectifs et en termes de gens auxquels nous avons affaire, vous et moi, simples citoyens, c'est pas la majorité du genre. La majorité du genre, c'est la police de sécurité publique, la police d'ordre. Or, cette police d'ordre, elle a beaucoup changé. C'est-à-dire que le policier de base, si je caricature, je vais pas dire analphabète, mais qui savait lire ou écrire, c'est fini. Aujourd'hui, on a des gens qui ont passé le concours de gardien de la paix et qui ont bac plus 4. C'est-à-dire qu'ils ont le rang pour être lieutenant ou pour présenter même le concours de commissaire.
D'où cette défiance par rapport à la hiérarchie. Un mot peut-être de Jean-Marc Falcone, le directeur général de la police nationale, qui a été hué en début de semaine.
Mais déjà, erreur de communication majeure, se présenter en grand uniforme, présenter sa photo en grand uniforme pour dire à des policiers qui eux-mêmes sont en tenue, ou en tout cas qui savent ce qu'est la tenue, eh bien voilà, on va prendre des sanctions parce que ce que vous faites, c'est pas bien, vous manquez votre devoir de réserve, ce qui est légalement indéfendable, il a raison, Jean-Marc Falcone. Mais c'est un mépris et les gens qui sont en face l'ont pris comme ça.
On parlait tout à l'heure des syndicats, ils occupent tout de même le terrain, les syndicats, avec d'un côté Unité FGP-FO, à l'origine de la marche de la colère qui sera organisée mercredi prochain. De l'autre côté, une intersyndicale qui comprend le syndicat Alliance et qui propose des rassemblements silencieux devant les tribunaux. Ils peuvent reprendre le dessus, les syndicats ?
Ça me semble un petit peu compliqué. Je ne sais pas du tout comment ça peut tourner. Il y a, d'après les remontées que j'ai, les discussions avec divers policiers, une énorme défiance vis-à-vis du monde syndical. Parce que pour les policiers de base qui, eux, en agissant à visage plus ou moins découvert, en se présentant, en allant manifester, eux, ils prennent un risque. Un syndicaliste qui manifeste ou qui va s'exprimer auprès des médias, il prend pas de risque. Il a le droit. C'est voilà la différence.
C'est un mouvement qui pourrait durer, Mathieu Frachon. On commence à parler de nuit debout des policiers. Vous en pensez quoi ?
C'est un petit peu compliqué. Les gens qui faisaient nuit debout ou autre chose, peu importe, sont des gens qui pouvaient se permettre de le faire. C'est-à-dire que un policier, c'est quelqu'un comme un ambulancier, comme un anesthésiste, comme une infirmière, comme un infirmier, comme le personnel hospitalier. C'est quelqu'un qui a une responsabilité. C'est-à-dire qu'on lui demande d'être là. On lui demande d'assurer des missions de service public et des missions qui sont quand même primordiales, qui sont celles de notre sécurité, de l'intervention. Donc ce sont des gens qui sont responsables. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir, est-ce qu'ils vont pouvoir étendre le mouvement assez longtemps pour assurer en même temps leur service et le soir, parce qu'ils font ça le soir, voire même la nuit, pouvoir manifester ? Tout est l'enjeu, hein. Tout est l'enjeu. Mais je crois que si le pouvoir, l'exécutif, quel qu'il soit, hein, quel qu'il ait été à droite ou à gauche, peu importe, sur ce genre de manifestation, essaye de jouer le pourrissement, ce serait une erreur majeure.
Merci Mathieu Frachon pour votre intervention dans le journal de 22h de France Culture. Vous êtes journaliste, historien de la police, auteur notamment de « La police pour les nuls ». Le Conseil constitutionnel a censuré un article de la loi sur le renseignement ce matin. Il concerne la surveillance et le contrôle des communications hertziennes, c'est-à-dire les communications sans fil. Les Sages, saisis d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité par 3 associations, estiment qu'il ne doit pas y avoir de surveillance massive sans encadrement. Benjamin Bayard est le président du fournisseur d'accès à Internet French Data Network qui a déposé cette QPC. Il explique comment cet article a pu entrer dans la loi au mois de juillet dernier.
Ça a pu passer essentiellement par faute d'inattention, c'est-à-dire que les vrais spécialistes du domaine connaissaient ce texte-là. On cite d'ailleurs dans les textes qu'on a transmis au Conseil constitutionnel contre l'article et pour l'inciter à censurer des déclarations de Jean-Jacques Urvoas, l'actuel ministre de la Justice, faisant état du fait que cet article de loi est quand même pas terrible, que ça protège pas grand-chose, que c'est une zone grise, comme on dit pudiquement, où les services font un peu ce qu'ils veulent avec. Comment ça a pu passer au travers? C'est très simple, c'est que dans la loi renseignement, le texte de l'article n'est pas cité. La loi renseignement, elle dit simplement « l'article numéro bidule est renuméroté numéro machin », sans citer son contenu. Et donc on l'a pas vu quand on a travaillé sur le texte de la loi renseignement, qui est un gros texte où il y avait déjà énormément de choses très dangereuses et très compliquées. On n'a pas vu passer cette simple ligne qui renuméroterait un article, on a arrêté de regarder ce qu'il y avait derrière. On aurait dû. Nous, on l'a pas vu. Le Conseil constitutionnel l'a pas vu, ou s'il l'a vu, il a bien rien dit. Mais c'est passé entre les mailles du filet.
Des propos recueillis par Benoît Bouscarel. Les journalistes ont décidé cet après-midi de reconduire une nouvelle fois la grève chez iTélé jusqu'à lundi midi. Le mouvement dure depuis 5 jours, c'est-à-dire depuis lundi, jour de l'arrivée très contestée sur la chaîne Info de l'animateur Jean-Marc Morandini. La direction des groupes Vivendi et Canal+ se contente pour l'instant d'annoncer le report du lancement de CNews, le nouveau nom de la chaîne. La rédaction d'iTélé et les organisations syndicales demandent ce soir au ministère de la Culture et de la Communication de nommer un médiateur. La Wallonie a besoin d'un peu de temps pour négocier l'accord de libre-échange CETA avec le Canada. Réaction de Paul Magnette. Le chef du gouvernement de la région belge s'est dit tout à l'heure surpris par l'échec des discussions avec Ottawa. La ministre du Commerce canadienne, qui était à Namur ce vendredi et qui a rencontré à 2 reprises les autorités wallonnes, a claqué la porte cet après-midi. Elle estime que l'Union européenne est incapable de conclure ce traité de libre-échange. Une décision qui attriste Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui, à l'entendre, est aussi un peu en colère contre la Wallonie.
Je considère que l'accord commercial avec le Canada est le meilleur que jusqu'à présent nous ayons pu conclure. Je reste bouche bée, interloqué, surpris par le fait que lorsque nous concluons un accord commercial avec le Vietnam, qui est mondialement connu pour appliquer tous les principes démocratiques, personne ne soulève la voix. Alors que si nous concluons un accord avec le Canada, qui est une dictature accomplie, comme nous le savons, tout le monde s'excite pour nous dire que nous ne respectons pas les droits de l'homme et les droits économiques et sociaux. L'inverse est vrai, il faudrait peut-être le dire de temps à autre.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, avec Johanna Hochstein. Au Venezuela, l'opposition compte riposter après le gel annoncé du référendum anti-Maduro avec une manifestation dès demain à Caracas. Le Conseil national électoral a décidé de reporter la collecte des signatures nécessaires pour organiser ce scrutin cet après-midi. Des tribunaux locaux dans plusieurs États ont annulé une première série de signatures à cause de fraude. La correspondance à Caracas d'Angèle Savino.
Organiser la semaine prochaine la collecte des 4 millions de signatures sur 3 jours, c'est-à-dire 20% de l'électorat, c'était l'objectif de l'opposition qui remue ciel et terre pour organiser le référendum avant le 10 janvier 2017. Des fraudes dans 5 États du Venezuela remettent en cause la collecte de signatures dans tout le pays et le Conseil national électoral avait prévenu si le seuil de 1% n'était pas atteint dans 20 des 24 États du Venezuela, l'ensemble du processus serait invalidé. Le dirigeant politique l'opposition, Enrique Capriles, a publié sur Twitter un document qui lui interdit de quitter le pays. La mesure concerne aussi le secrétaire exécutif de la table pour l'unité démocratique, Jesús Torrealba, et 6 autres opposants. La possibilité d'organiser ce référendum est désormais quasiment nulle. Alors que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y aura une explosion sociale, comme l'avait averti Capriles récemment? C'est assez peu probable car l'opposition est assez désunie. Elle est divisée entre les modérés et les radicaux qui exigent plus de pression de la rue pour faire partir Maduro. Les modérés sont partisans du dialogue et il faut dire que le gouvernement a fait beaucoup de concessions au secteur privé, notamment dans le secteur alimentaire et pétrolier. Alors le référendum est perçu comme une transition électorale, constitutionnelle et pacifique, pour mettre fin à la crise politique que vit le pays depuis que l'opposition est majoritaire au Parlement. Mais les Vénézuéliens se soucient plus de leurs problèmes économiques quotidiens, comme faire la queue pour trouver des aliments. Et surtout, ils refusent la violence. Le trauma des 43 morts lors des manifestations de 2014 reste vif dans la mémoire des gens.
En Irak, acculé à Mossoul, l'État islamique a fait diversion aujourd'hui dans la ville de Kirkouk, sous contrôle kurde et située plus à l'est. Au moins 5 kamikazes ont visé des bâtiments gouvernementaux, dont le QG de la police. Une centrale électrique a également été ciblée, causant la mort d'une 20aine de personnes. Enfin, l'Europe spatiale a essuyé un revers dans sa conquête de Mars. Le module Schiaparelli s'est écrasé sur la planète rouge. L'Agence spatiale européenne a localisé l'engin ce vendredi. Son parachute de 12 mètres de diamètre a été éjecté trop tôt. L'Europe a néanmoins réussi à mettre en orbite une sonde scientifique en partenariat avec la Russie autour de la planète Mars. La météo de votre samedi, la France sera coupée en deux sur une ligne La Rochelle-Dijon. Un temps lumineux au sud, des nuages au nord avec quelques pluies dans les Hauts-de-France. Les températures, il fera demain matin 7 à Amiens, 8 à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 9 à Lille, 13 à Biarritz, 16 à Marseille et 18 à Ajaccio.